Chapitre 20. Un choix.
« Tu ne dois pas parler, »
dit Rosile à Ninevé.
La mince jeune femme au long cou portait une robe orange rayée de jaune.
« Sauf lorsqu'on s'adresse à toi. Tu connais la cérémonie. »
Ninevé acquiesça. Alors que sa compagne et elle s'enfonçaient dans les entrailles de la tour blanche, son cœur battait la chamade. Nouvelle maîtresse des novices, Rosile était membre de l'Aja jaune.
« Parfait, parfait, »
dit-elle.
« Puis-je te suggérer de transférer ta bague sur l'annulaire de ta main gauche ?»« Oui, tu peux le suggérer. »
Ninevé laissa la bague au serpent où elle était. Sur un point, elle ne transigerait pas. Elle avait bel et bien été nommée à Aes Sedai. Rosie fit la moue, mais elle n'insista pas. Depuis la récente arrivée à la tour de Ninevé, cette femme était avec elle d'une grande gentillesse, un soulagement. A priori, l'épouse de l'âne avait cru que toutes les sœurs jaunes la regarderaient avec mépris, ou au minimum indifférence. Bien entendu, elle ne contestait pas ses compétences, et beaucoup d'entre elles insistaient pour qu'elle les forme. Mais elle ne la tenait pas pour l'une des leurs. Pas encore. Cette femme était différente, et lui infliger une rebuffade ne semblait pas vraiment équitable.
« C'est important pour moi, Rosile, »
expliqua Ninevé.
« Je ne dois pas montrer une once d'irrespect à la Shah d'Amerline. C'est elle qui m'a nommé. Agir comme si je n'étais qu'une acceptée reviendrait à miner son autorité. Cette épreuve est importante. Quand notre mère m'a nommé, elle n'a jamais dit que je ne devais pas la subir. Mais je suis une Aes Sedai. »
Rosile inclina la tête, puis la hocha.
« Oui, je vois. Tu as raison. »
Ninevé s'arrêta dans le couloir obscur.
« Je tiens à te remercier, ainsi que les autres sœurs qui m'ont accueilli ici. Nyeré et Meramor. Je n'aurais pas cru être si bien reçu. Certaines personnes sont rétives au changement, et il en sera toujours ainsi. Mais tes nouveaux tissages sont impressionnants. Plus important, ils fonctionnent. C'est ça qui t'a valu un accueil chaleureux de ma part. »
Ninevé sourit.
« Cela dit, »
ajouta Rosile, un index levé,
« même si tu es une Aes Sedai aux yeux de la chair d'Amirline et de la tour, les traditions sont les traditions. Plus un mot jusqu'à la fin de la cérémonie, je t'en prie. »
Rosile continua à ouvrir le chemin. Ravalant une réplique, Ninevé suivit le mouvement. Pas question de se laisser dominer par ses nerfs. En marchant, et malgré sa détermination à rester calme, Ninevé sentit monter sa nervosité. Étant une Aes Sedai, elle passerait cette épreuve. Les sentissages, elle les maîtrisait. Alors pourquoi s'inquiéter? Eh bien, parce que certaines femmes ne revenaient jamais de l'épreuve. Les sous-sols de la tour étaient grandioses. Au-dessus du sol lisse parfaitement à niveau, les lampes pendaient très haut sur les murs. Pour les allumer, il avait dû falloir qu'une sœur ou une acceptée utilise le pouvoir de l'unique. La plupart des pièces étant des remises, peu de gens s'aventuraient ici. Avoir déployé tant de talent pour construire un endroit si rarement visité avait quelque chose d'un gaspillage. Après un long moment, les deux femmes arrivèrent devant une double porte si grande que Rosile dut recourir au pouvoir de l'unique pour la pousser.
« C'est une indication, » pensa Ninevé. Les couloirs dotés d'une voûte, la porte géante. Tout ça pour souligner l'importance de ce qu'une acceptée est sur le point de faire.
Quand l'imposante porte, presque un portail, fut ouverte, Ninevé se força à contrôler sa terreur. L'ultime bataille approchait. Elle ne pouvait pas rater cette épreuve. Une mission capitale l'attendait. Tête bien droite, elle entra dans la salle, munie d'une coupole et de lampes sur tout son périmètre. Au centre trônait un grand terrain gréal, une sorte d'anneau ovale qui tenait debout tout seul. Beaucoup de terrains gréal ne payaient pas de mine. Celui-là, c'était différent. Au premier coup d'œil, on voyait qu'il avait été forgé par le pouvoir de l'unique. Il était en métal, la lumière changeant de couleur quand elle se reflétait sur ses contours. En conséquence, il donnait l'impression de briller, et sa substance semblait fluctuer.
« Veuillez approcher !»
dit Rosile d'un ton solennel. Les Aes Sedai qui attendaient dans la salle vinrent entourer Ninevé. Une de chaque Aja, y compris, hélas, le rouge. Toutes des représentantes. Une bizarrerie, peut-être à cause de la notoriété de Ninevé à la tour. Saïrine de l'Aja marron, Yukiri du gris, Barassine du rouge, Lélaine du bleu, Séhaine du blanc et Rubindé du vert. Point très important, Romanda du jaune avait insisté pour être présente. et jusque-là, elle ne s'était jamais montrée tendre avec Ninevée. Egwen était là aussi. 8 sœurs au lieu de 7, et la chair d'Amirline en plus de ça. Quand Ninevée chercha son regard, Egwen l'encouragea d'un hochement de tête. À l'inverse de l'épreuve qu'on passait pour devenir une acceptée, entièrement conduite par le Terangréal, celle que subirait Ninevée exigeait que les sœurs s'impliquent activement pour la forcer à montrer sa valeur. Dans le lot, Egwen serait la plus exigeante, histoire de prouver qu'elle avait bien fait de la nommer.
« Ninevée Almehara, tu es entrée ici dans l'ignorance. Comment en sortiras-tu ?»«
Avec la connaissance de moi-même, » répondit Ninevée.
« Et pourquoi as-tu été convoquée ici ?»«
Pour être mise à l'épreuve. »«
Et pourquoi veut-on te mettre à l'épreuve ?»«
Pour que je prouve ma valeur. »
Plusieurs sœurs froncèrent les sourcils, y compris Egwen. Ce n'était pas la réponse rituelle. Normalement, Ninevée aurait dû dire « afin que je sache si je suis digne », mais étant déjà une Aes Sedai, elle était par définition digne d'en être une. Son défi, c'était de le démontrer aux autres. Rosil hésita, mais elle continua en improvisant.
« Prouver ta valeur dans quel but ?»«
Avoir le droit de porter le châle qu'on m'a remis. »
Il n'y avait pas une once d'arrogance dans ses propos. Là encore, Ninevée se contentait d'énoncer une vérité, telle qu'elle la voyait en tout cas. Egwen l'ayant nommée, elle portait déjà le châle. Pourquoi aurait-elle prétendu le contraire? L'épreuve devant se dérouler dans une parfaite nudité, Ninevée commença à retirer ses vêtements. À partir de là, elle serait vêtue d'un manteau de lumière.
« À présent, écoute mes instructions, »
dit Rosil. Elle canalisa le pouvoir et fit se matérialiser dans les airs une étoile à 6 branches qui se consuma en une fraction de seconde.
« Durant l'épreuve, tu verras ce signe apparaître sur le sol et ailleurs. »
Saïrin s'unit à la source et canalisa un flux d'esprit. Non sans peine, Ninevée réussit à s'empêcher de se connecter elle aussi au pouvoir.
« Encore un peu de patience, et plus personne ne doutera de moi. »
Saïrin dirigea son flux d'esprit sur Ninevée.
« Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir, »
murmura-t'elle. Ce tissage avait un lien avec la mémoire, comprit Ninevée. Mais dans quel objectif ? Soudain, l'étoile à 6 branches apparut sur le sol.
Lorsque tu verras ce signe, tu te dirigeras immédiatement vers lui d'un pas régulier, sans courir ni traîner les pieds. Lorsque tu l'auras atteint, tu pourras entrer en contact avec la source authentique. Le tissage requis devra être réalisé immédiatement, et il ne faudra pas t'éloigner du signe avant d'en avoir terminé. Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir,
répéta Saïrin.
Quand le tissage sera achevé,
dit Rosil,
tu verras de nouveau le signe qui te montrera le chemin à suivre. Toujours d'un pas régulier et sans hésitation.
Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir.
Tu réaliseras 100 tissages dans l'ordre qui t'a été indiqué et en conservant ton calme.
Souviens-toi de ce dont tu dois te souvenir.
Souffla Saïrin pour la dernière fois. Ninevée sentit le tissage d'esprit se déverser en elle, un peu comme des flux de guérison. Tandis qu'elle finissait de se déshabiller, les autres sœurs, sauf Rosil, s'agenouillèrent autour du Terangréal et générèrent des tissages complexes avec les 5 pouvoirs. L'anneau brilla encore plus fort et le jeu de couleurs s'intensifia. Rosil se racla la gorge. Rouge comme une pivoine, Ninevée lui tendit ses vêtements. Puis elle retira sa bague au serpent, la posa sur les habits et ajouta la chevalière de l'âne qu'elle portait d'habitude autour du cou. Rosil s'empara des vêtements. Concentrées sur leur tâche, les autres sœurs ne devaient plus avoir conscience de rien d'autre. Une lumière blanche apparut au centre du Terangréal, qui commença à tourner lentement sur lui-même. Ninevée prit une profonde inspiration et avança. S'immobilisant une fraction de seconde devant le Terangréal, elle le traversa et... Mais où était-elle ? Ninevée fronça les sourcils. Cet endroit ne ressemblait pas à Champ des Mondes. Alors que les vagues venaient lécher une plage de sable sur sa gauche, un village de huttes s'étendait le long d'une pente rocheuse sur sa droite. Dans le lointain, une imposante montagne dominait le paysage. Une sorte d'île, en déduisit Ninevée. L'air était humide, et la brise se révélait des plus bienveillantes. Entre les huttes, des gens allaient et venaient, se saluant amicalement les uns les autres. Quelques-uns s'immobilisèrent pour étudier la jeune femme. Alors, elle prit conscience qu'elle était nue. Et rougit jusqu'à la racine des cheveux. Qui lui avait volé ses vêtements? Si le ou la coupable lui tombait sous la badine, il ou elle risquerait d'avoir du mal à s'asseoir pendant des semaines. Une robe pendait sur une corde à linge. Se forçant à rester calme, Ninevée en approcha et la décrocha. Plus tard, elle trouverait sa propriétaire et la dédommagerait. En attendant, elle l'enfila. Soudain, le sol trembla sous ses pieds. Les vagues, jusque-là paisibles, commencèrent à s'écraser sur la plage. Surprise, Ninevée se retint à un des poteaux où était nouée la corde à linge. Dans le lointain, de la fumée et des cendres jaillirent du sommet tronqué de la montagne. Ninevée serra plus fort son poteau quand la pente rocheuse se fractura, des rochers la dévalant. Terrorisés, des villageois hurlèrent. L'ancienne sage-dame devait faire quelque chose. Elle regarda autour d'elle et vit que l'étoile à six branches était gravée toute seule dans le sol rocheux. Elle aurait voulu courir vers le cygne, mais elle devait marcher à pas lents et prudents. Garder son calme lui coûta un effort surhumain. À chaque enjambée, son cœur battait un peu plus fort. Par la lumière, elle allait se faire écrabouiller. De fait, elle atteignit le cygne au moment où une pluie de pierres et de rochers s'abattait, écrasant des huttes. Dominant sa peur, elle généra en un clin d'œil la réponse requise. Un tissage d'air qui forma aussitôt un mur protecteur. À partir de là, les rochers rebondirent contre cette défense, ne risquant plus de la toucher. Mais il devait y avoir des blessés partout. Quand elle se détourna de l'étoile, décidée à aider les villageois, elle vit le même cygne, tissé avec des roseaux, accroché à la porte d'une hutte non loin de là. Ninevée hésita. Elle ne pouvait pas échouer. Lentement, elle approcha de la hutte, poussa la porte et entra. Aussitôt, elle se pétrifia. Que faisait-elle dans une grotte obscure et froide? Et pourquoi portait-elle une robe dont le tissu grossier l'irritait abominablement? Elle avait réalisé le premier de ses 100 tissages, ça elle le savait, mais tout le reste lui échappait. Perplexe, elle avança dans la grotte à la faveur de la chiche lumière qui sourdait de quelques fissures. Puis, loin devant, elle distingua une lueur bien plus vive, la sortie. Une fois dehors, elle constata qu'elle était au milieu du désert des Aïels. Pour se protéger les yeux du soleil étincelant, elle mit une main en visière. Pas une âme qui vive en vue. Ninevée avança, ses pieds nus écrasant des herbes desséchées et foulant la roche surchauffée. Sous une chaleur étouffante, chaque pas la vidait de son énergie. Par bonheur, elle aperçut très vite des ruines, pas loin devant elle. De l'ombre, enfin. Une fois encore, elle aurait voulu courir, mais il ne fallait surtout pas céder à la tentation. Marchant à pas lents, elle parvint jusqu'à l'ombre projetée par un mur à demi écroulé. Ici, la roche était si fraîche qu'elle en soupira de soulagement. Sur le sol, des briques dessinaient un symbole. L'étoile à six branches, bien entendu. Hélas, le cygne se trouvait en plein soleil. Sans enthousiasme, Ninevée quitta l'ombre bienveillante et approcha de l'étoile. Dans le lointain, on entendait des roulements de tambour. Tournant la tête, Ninevée vit que des créatures répugnantes à la fourrure marron apparaissaient au sommet d'une colline. Leurs haches, constata-t-elle, étaient rouges de sang. Des trollocs? Non, quelque chose ne collait pas. Même si elle ne se rappelait pas où, des trollocs elle en avait déjà vu, et ils ne ressemblaient pas à ça. Une race différente? Avec une fourrure bien plus épaisse et de petits yeux enfoncés. Ninevée pressa le pas, mais sans courir. Rester calme était essentiel. Quelle idiotie quand même! Pourquoi devait-elle s'empêcher de courir alors qu'elle avait des trollocs aux trousses? Si elle mourait à cause de ça, elle ne devrait s'en prendre qu'à elle. Pas trop vite, reste sereine. Elle marcha paisiblement et atteignit l'étoile, alors que les trollocs étaient dangereusement proches. Enfin, elle s'attaqua au troisième tissage de sa liste, un flux de feu. Ensuite, elle projeta sur les monstres une vague de chaleur qui carbonisa sur pied le premier rang. La peur au ventre, elle acheva son tissage et recommença l'opération une demi-douzaine de fois. En un clin d'œil, elle en eut fini avec une opération pourtant complexe. Le tissage noué, elle hocha la tête, satisfaite. À présent, un simple geste de la main lui suffisait pour réduire en cendres les monstres qui continuaient d'affluer. Du coin de l'œil, Ninevée vit que l'étoile s'était gravée sur une arche de pierre. Elle approcha, se forçant à ne pas regarder par-dessus son épaule. La horde de trollocs qui déboulait dépassait ses capacités défensives. Mais elle franchit l'arche et leur échappa. Le 47e tissage faisait retentir une sonnerie de cloche dans les airs. Épuisée, Ninevée avait dû générer ses flux en se trouvant au sommet ridiculement étroit d'une tour qui tutoyait le ciel. À cette altitude, le vent menaçait à chaque instant de la faire basculer dans le vide. Une arche apparut sous Ninévé, dans la nuit d'encre. À une dizaine de pieds plus bas, son ouverture donnant sur le ciel, l'improbable structure arborait l'étoile à six branches. Les dents serrées, Ninévé sauta de son perchoir et se laissa tomber vers l'arche. Elle atterrit dans une grande flaque d'eau, sans vêtements, de nouveau. Qu'était-il arrivé à sa robe? En maugréant, elle se releva. En elle, une colère noire bouillonnait. Pourquoi, elle n'aurait su le dire, mais quelqu'un, semblait-il, lui avait fait quelque chose. Elle était si fatiguée. La faute à ses tortionnaires, qui qu'il soit. Cette pensée lui éclaircit les idées. Elle avait oublié quel tort on lui avait fait, mais c'était condamnable, sans aucun doute là-dessus. Sur ses deux bras, elle remarqua des zébrures. Une flagellation? En tout cas, c'était très douloureux. Ruisselante d'eau, elle regarda autour d'elle. 47 tissages sur les 100 requis. Tout ce qu'elle savait. À part que quelqu'un désirait ardemment qu'elle échoue. Mais elle ne ferait pas ce plaisir à son adversaire. Elle sortit de sa flaque, résolue à rester calme et à trouver au plus vite quelque chose à se mettre. De fait, elle dénicha une robe multicolore où le rose se mêlait au jaune avec du rouge comme liant. Une insulte au bon goût, en somme. Elle l'enfila quand même. Dans le marécage, elle contourna des trous d'eau et des mares de gadou jusqu'à ce que l'étoile soit visible dans l'une d'elles. En route pour le 48e tissage, qui devait faire apparaître dans les airs une étoile bleue en fusion. Sentant une morsure dans son cou, Ninévé y flanqua une claque, écrasant un insecte. Eh bien, dans un milieu pareil, ils devaient être nombreux. Elle aurait de la chance si... Une nouvelle morsure, sur le bras cette fois. Elle flanqua une autre claque, mais l'air se mit à bourdonner, et un nuage d'insectes commença à tourner autour d'elle. Sans se laisser distraire, Ninévé continua son tissage. Mais les morsures se multiplièrent sur ses bras. Impossible d'écrabouiller tant de sales bestioles. Et avec un tissage? Un flux d'air, par exemple, qui chasserait les insectes. Elle s'y attela, mais des cris l'interrompirent. Dominant de peu le bourdonnement des insectes, il semblait monter de la gorge d'un enfant piégé dans le marécage. Elle avança en direction du son, ouvrit la bouche pour appeler le gosse, mais de grosses mouches s'y engouffrèrent, menaçant de l'étouffer. D'autres s'attaquèrent à ses yeux, la contraignant à les fermer. Le bourdonnement, les cris, les morsures. Bon sang, il y avait des insectes dans sa gorge et jusque dans ses poumons. « Termine le tissage, tu dois le faire !» Elle insista, ignorant la douleur. Désormais, le bourdonnement était si fort qu'elle entendit à peine le souffle qu'émit l'étoile bleue quand elle explosa. Ninévé tissa de l'air pour chasser le nuage d'insectes. Quand ce fut fait, elle regarda autour d'elle. Tremblant comme une feuille, elle toussait et sentait que des mouches étaient encore collées dans sa gorge. En revanche, elle ne vit pas le moindre enfant en danger. Une illusion auditive? Au milieu d'une porte enchâssée dans un tronc d'arbre, l'étoile apparut de nouveau. Alors que le nuage d'insectes revenait, Ninévé approcha du cygne, calmement. Très calmement. Pourquoi? Ça n'avait aucun sens. Elle le fit pourtant, les yeux fermés pour se protéger de ses agresseurs. À l'aveugle, elle localisa la porte, l'ouvrit et la franchit. Dans le bâtiment, elle s'arrêta, se demandant pourquoi elle toussait comme une perdue. Était-elle malade? Furieuse et épuisée, elle s'appuya contre un mur. Ses jambes étaient couvertes d'égratignures, et sur les bras, ce qui ressemblait à des morsures d'insectes grattait terriblement. Elle grogna et baissa les yeux sur sa robe. Qu'est-ce qui l'avait poussée à porter un mélange de rouge, de jaune et de rose? Elle soupira, puis entreprit de remonter le couloir. Sous ses pieds, le plancher grinçait à chaque pas, et le plâtre des murs s'effritait. Quand elle atteignit une porte, Ninévé l'ouvrit et jeta un coup d'œil dans la pièce. Une chambre exiguë, avec quatre petits lits de fer, des brins de paille saillant des matelas. Dans chaque lit, un gamin serrait une couverture miteuse. Deux d'entre eux toussaient, et tous semblaient en piteux état. Ninévé se précipita dans la chambre et s'agenouilla près du premier lit, où reposait un garçon de 3 ou 4 ans. Après avoir examiné ses yeux, elle lui demanda de tousser. Puis plaqua une oreille contre son torse. La maladie des poumons crépitant.
« Qui s'occupe de vous ?»
demanda Ninévé.
« C'est maîtresse Mala qui dirige l'orphelinat, mais on ne l'a plus vue depuis longtemps.
un filet de voix. Pas un bon signe, ça.
S'il vous plaît,
appela la fillette étendue dans le lit d'à côté. Tremblante, les yeux injectés de sang, elle était d'une pâleur cadavérique.
J'ai soif. Je peux avoir un peu d'eau.
Les deux autres enfants pleuraient. Quelle tristesse. Dans la chambre, il n'y avait pas de fenêtre et des cafards grouillaient sous les lits. Qui pouvait avoir laissé des gosses dans de telles conditions?
Du calme, souffla Nineveh. Je suis là maintenant et je vais m'occuper de vous.
Pour les guérir, il lui suffirait de canaliser le pouvoir.
Non, je ne peux pas. Pour ça, je dois atteindre l'étoile.
Eh bien, elle concocterait des potions. Où était sa sacoche à herbe? Dans la pièce, elle chercha du regard une source d'eau. Mais elle se pétrifia. De l'autre côté du couloir, il y avait une seconde chambre. Sur le sol, un tapis arborait l'étoile à 6 branches. Nineveh se redressa et les enfants gémirent.
« Je reviens, »
dit-elle en sortant de la première chambre. Chaque pas lui déchirait le cœur parce qu'elle abandonnait ses petits. Mais non, elle entrait seulement dans l'autre chambre. Ça n'avait rien d'un abandon. Dès qu'elle fut sur le tapis, elle s'attela à son tissage. Elle devait se dépêcher avec celui-là. Et tant pis si elle pleurait en canalisant.
« Je suis déjà venue ici, ou dans un lieu semblable, et dans une situation similaire. »
Sa fureur grandit. Comment pouvait-elle canaliser alors que ses gosses l'appelaient? Ils agonisaient. Elle acheva son tissage, puis le regarda projeter des courants d'air qui firent onduler sa robe. Alors qu'elle saisissait sa natte, une porte apparut sur un mur de la pièce. Sur une sorte de hublot, l'étoile à 6 branches l'appelait. Elle devait continuer. Les pleurs des enfants dans les oreilles, des larmes toujours aux yeux, elle approcha de la porte. Après, ça ne fit qu'empirer. Elle dut laisser des gens se noyer, être décapités ou brûlés vifs. Moment atroce, elle dut canaliser alors que des villageois se faisaient dévorer par des araignées géantes aux poils rouges et aux yeux cristallins. Les araignées, elle les abominait. De temps en temps, elle était de nouveau nue, mais ça ne la dérangeait pas. Même si elle ne pouvait se souvenir de rien, à part le nombre de tissages où elle en était, elle comprenait d'instinct que sa pudeur ne comptait pas comparée aux horreurs auxquelles elle assistait. Alors qu'elle émergeait d'une arche, le souvenir d'une maison en feu s'estompant déjà de son esprit, elle s'avisa qu'elle allait s'attaquer à son 81e tissage. Ça, elle s'en souvenait, ainsi que de sa rage. Pour l'heure, elle porta une simple robe de toile à moitié brûlée. Où l'avait-elle roussi de cette façon? Elle se redressa, la tête bien droite. Les bras tremblants, le dos douloureux comme si on l'avait fouetté, les jambes et les pieds constellés de zébrures et de coupures. Comment pouvait-elle être dans cet état? En tout cas, elle venait d'arriver à Champ des Mondes. Sauf que ce n'était pas le village dont elle se souvenait. Encore en flammes, plusieurs bâtiments menaçaient de s'écrouler.
« Ils reviennent !»
cria une voix, celle de Maître Alvéré. Mais pourquoi brandissait-il une épée? Des gens qu'elle connaissait et qu'elle aimait, Perrine, Maître Alvéré, Maîtresse Aldonnel, Aéric Botteguer, se tenaient derrière un mur, tous serrant une arme dans leurs poings. Certains lui firent signe.
« Nineveh ! »
appela Perrine.
« L'engeance du démon ! Nous avons besoin de toi !»
Des silhouettes géantes se dressaient de l'autre côté du mur. Des créatures des ténèbres d'une taille jamais vue. Pas des trolloques, mais de bien pires monstres dont les rugissements montaient à ses oreilles. Nineveh devait aider ses amis. Alors qu'elle allait rejoindre Perrine, elle s'immobilisa quand elle aperçut de l'autre côté de la place une étoile à 6 branches peinte sur le flanc d'une colline.
« Nineveh ! »
cria de nouveau Perrine, désespérée. Il commença à affronter une créature qui escaladait le mur, ses tentacules noirs déjà visibles. Avec sa hache, Perrine les coupait net, mais l'un d'eux s'enroula autour d'Aéric et l'entraîna dans les ténèbres. Nineveh se dirigea sans hâte vers l'étoile, très calme, comme il le fallait. C'était idiot, grotesque, ridicule. Une Aes Sedai devait être impassible, certes, mais elle devait aussi savoir agir pour aider les personnes en détresse. Ce que ça lui coûterait importait peu. Des gens étaient en danger. Là, elle se mit à courir. Hélas, ce n'était pas suffisant. Elle fonçait vers l'étoile, mais en laissant ses amis combattre tout seuls. Avant d'avoir atteint le signe, cependant, elle ne serait pas en mesure de canaliser. Quelle ineptie! Des monstres attaquaient. Elle devait utiliser le pouvoir. Quand elle s'unit à la source, quelque chose sembla vouloir l'en empêcher. Un bouclier qu'elle écarta sans peine, avant de sentir le Saïdar se déverser en elle. Elle entreprit de carboniser les créatures, en commençant par celle qui tentait de capturer Perrine. Elle continua à projeter du feu jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'étoile. Là, elle exécuta son 81e tissage, qui fit apparaître 3 anneaux de feu dans les airs. Sans cesser d'attaquer les monstres, elle s'acharna. Ce tissage n'avait aucun sens dans la situation présente, mais elle devait l'achever. Augmentant les flux, elle fit grandir les anneaux embrasés. Puis elle les jeta sur les monstres. Submergés par ce déferlement de flammes, ils crevèrent en quelques secondes. Sur le toit de l'auberge de Maître Alvéré, une étoile apparut. Une partie brûlée de la toiture? Nineveh ignora le signe, s'acharnant sur les derniers monstres aux tentacules noirs.
Non, c'est important. Plus important que Champ des Mondes et de Rivière. Je dois continuer.
Avec le sentiment d'être une poltronne, mais consciente qu'elle agissait comme il fallait, elle courut jusqu'à l'auberge et y entra. Étendue sur le sol, en pleurs, Nineveh gisait près d'une arche brisée. Elle arrivait à son 100e tissage. Les joues striées de larmes, elle parvenait à peine à bouger. Dans son esprit flottaient de vagues souvenirs de batailles qu'elle avait fuies et d'enfants abandonnés à la mort. Jamais elle n'avait pu en faire assez. Une de ses épaules saignait, la morsure d'un loup. Ses jambes, eh bien, on eût dit qu'elle s'était longuement promenée dans un buisson d'épineux. Sur tout le corps, elle portait des plaies et des cloques, et elle était nue. Elle se leva sur ses genoux écorchés et constata que le moignon de sa natte, roussie, fumait encore. Tremblante, elle se tourna sur le côté et vomit. Si malade et si faible, comment aurait-elle pu continuer?
Non, je ne serai pas vaincue.
Lentement, elle se releva. Elle était dans une petite pièce, les planches disjointes des cloisons laissant filtrer un peu de lumière. Sur le sol, un carré de tissu blanc attendait. Elle le ramassa, le déplia, et vit que c'était une robe d'acceptée, avec des bandes de couleurs, celles des 7 ajats, sur l'ourlet. Elle la laissa tomber.
« Je suis une Aes Sedai !»
dit-elle en piétinant le vêtement. Puis elle ouvrit la porte et sortit. Mieux valait être nue que drapée dans un mensonge. Dehors, elle trouva une autre robe, jaune cette fois. Voilà qui était beaucoup mieux. Sans cesser de trembler, elle prit le temps de l'enfiler, ses doigts si gourds qu'elle parvenait à peine à les bouger. Inévitablement, son sang tacha sa nouvelle tenue. Une fois vêtue, elle regarda autour d'elle. Elle se tenait sur le versant d'une colline, dans la flétrissure. C'était évident, à cause des taches noires visibles sur toute la végétation. Pourquoi y avait-il une cabane au milieu de la flétrissure? Et qu'avait-elle fichu dedans? Épuisée, elle aurait voulu y retourner et dormir des heures. Non, elle devait continuer. Inlassable, elle se dirigea vers le sommet de la butte. Là, elle eut une vue panoramique sur un paysage jonché de ruines et de poches d'obscurité. Des lacs, aurait-on pu dire, mais en réalité, ça n'en était pas. Et le liquide semblait épais et huileux. Des silhouettes sombres se déplaçaient dans cet enfer.
« Le Malkière !»
pensa Nineveh, stupéfaite de reconnaître ce lieu.
« Les 7 tours, dont il ne reste que des gravats. Et les 1000 lacs corrompus, le lieu où repose l'héritage de l'âne. »
Nineveh avança, mais son orteil heurta quelque chose. Une pierre où figurait un symbole minuscule, l'étoile à 6 branches. L'épouse de l'âne soupira de soulagement. Ce serait bientôt fini. Presque enthousiaste, elle s'attaqua au dernier tissage. Au pied de la colline, un homme émergea de derrière un tas de gravats, épais au poing. Même de si loin, elle le reconnut sur le champ. Cette silhouette puissante, ce visage carré, cette façon de marcher féline, la cape caméléon flottant dans son dos.
« L'âne !»
cria Nineveh. Des fauves qui ressemblaient à des loups, mais en beaucoup plus grands, entouraient le champion. Avec leur fourrure noire, leur croc semblait encore plus blanc. Des chiens des ténèbres. Une entière meute. Son tissage achevé, Nineveh sursauta, surprise de ne pas s'être interrompue. Autour d'elle, une pluie de petits points colorés tourbillonna un moment avant de retomber. Vidée, Ninevé les regarda se poser sur le sol. Dans son dos, elle entendit un bruit, mais il n'y avait rien, à part la cabane. Composée d'éclats de pierres précieuses, l'étoile était en lévitation au-dessus d'un portail qui n'était pas là avant. Ninevé fit un pas vers la cabane, puis elle se retourna. L'âne zébrait l'air avec son épée, forçant le chien des ténèbres à reculer. Une morsure, et la bave du monstre tuerait le champion.
« L'âne !»
cria sa femme.
« Cours !»
L'âne ne l'entendit pas. L'étoile à six branches, elle devait en approcher. Ninevé cligna des yeux, puis elle les baissa sur ses paumes. Au centre de chacune, elle découvrit une petite cicatrice presque invisible. Cette vision éveilla un souvenir en elle. « Ninevé, je t'aime. » Elle passait une épreuve, ça lui revenait à présent. Une épreuve visant à la forcer à choisir entre l'âne et la tour blanche. Ce choix, elle l'avait déjà fait une fois, mais en ayant conscience que ce n'était pas réel. Aujourd'hui, ça ne l'était pas davantage, pas vrai? Elle porta une main à sa tête, l'esprit embrumé.
« C'est mon mari que je vois en bas. Non, je n'entrerai pas dans ce jeu. »
Elle cria, puis projeta du feu sur un des chiens. Le monstre s'embrasa, mais les flammes ne semblèrent pas lui faire de mal. Ninevé avança et expédia d'autres flux, inutiles. Les chiens continuaient d'attaquer. Refusant de céder à sa fatigue, elle la bannit et retrouva son calme. Un cœur de glace. On voulait la pousser à bout, voir comment elle réagirait? Eh bien, on allait voir. Dans la source, elle puisa une immense quantité de pouvoir. Puis elle tissa des torrents de feu. Une lance de pure lumière jaillit de ses doigts, percuta un chien des ténèbres, le traversa et continua son chemin dans le sol. La zone entière trembla et Ninevé vacilla sur ses jambes. L'âne s'écroula et les chiens des ténèbres survivants sautèrent sur lui.
« Non !»
Ninevé se stabilisa et tissa de nouveau des torrents de feu. L'un après l'autre, elle raya de la surface du monde plusieurs chiens des ténèbres. La plupart de ces monstres jaillissaient de derrière des rochers. D'où venaient-ils donc? Ninevé avança, continuant à déchaîner le tissage interdit. Chaque fois, le sol tremblait comme s'il souffrait. Les torrents de feu n'auraient pas dû avoir cet effet sur la terre. Quelque chose clochait. Quand elle atteignit l'âne, Ninevé vit qu'il s'était cassé une jambe.
« Ninevé !»
lança-t-il.
« Tu dois partir !»
Comme si elle n'avait pas entendu, l'ancienne sage-dame s'agenouilla et détruisit un nouveau chien des ténèbres, qui émergeait de derrière un tas de gravats. Les monstres étaient de plus en plus nombreux, et son énergie l'abandonnait. Chaque tissage, désormais, lui semblait être le dernier. Mais ce n'était pas possible. Pas alors que l'âne risquait sa vie. Mobilisant ses dernières forces, Ninevé généra un flux de guérison hautement complexe et suffisant pour rendre à l'âne l'usage de sa jambe. D'un bond, il se releva, ramassa son épée et fit face à un monstre. Les deux époux luttèrent ensemble, Ninevé avec les torrents de feu et son mari avec sa lame. Mais les coups d'épée manquaient de puissance et l'ancienne sage-dame avait besoin d'un peu plus de temps entre chaque tissage. Le sol tremblait en permanence. Les ruines finissaient de s'écrouler.
L'âne, prépare-toi à courir.
Pardon?
Avec ses dernières forces, Ninevé tissa une lance de lumière qu'elle dirigea droit devant eux. De souffrance, la terre en eut des spasmes, presque comme une créature vivante. Puis elle s'ouvrit, entraînant des chiens des ténèbres dans ses entrailles. Le pouvoir de l'unique abandonna Ninevé, qui s'écroula, trop fatigué pour canaliser. L'âne la prit par le bras.
« On doit filer !»
Ninevé se releva péniblement et saisit la main de son mari. Ensemble, ils gravirent le versant qui commençait à se fissurer. Des monstres les suivirent, certains sautant par-dessus les crevasses qui apparaissaient partout. Sa main dans celle de l'âne, Ninevé courut plus vite que jamais. Bientôt, les deux époux atteignirent le sommet de la butte. Avec la violence du tremblement de terre, que la cabane tienne encore debout était miraculeux. Avec l'âne, Ninevé courut vers le salut. Le champion tituba, cria de douleur et lâcha la main de sa femme. Ninevé se retourna. Derrière eux, une horde de chiens des ténèbres déboulait au sommet de la colline, leurs crocs dévoilés et de la bave au coin de la gueule. Les yeux écarquillés, L'âne fit signe à son épouse de continuer.
« Non !»
Ninevé prit son homme par le bras et le tira vers la cabane. Ensemble, ils franchirent le portail qui n'était pas là avant et... À bout de souffle, Ninevé jaillit hors du terrain gréal en forme d'anneau. Emportée par son élan, elle s'écroula, nue et tremblant de tous ses membres. Alors, ses souvenirs lui revinrent. Elle se rappela les abominations de l'épreuve, chaque trahison, chaque tissage frustrant, le sentiment d'impuissance, les cris des enfants, la mort de gens qu'elle connaissait et chérissait. En position fœtale, elle éclata en sanglots. Son corps entier lui faisait mal. Son épaule, ses jambes et son dos saignaient encore. La peau couverte de cloques et de plaies, elle avait perdu presque toute sa natte. Alors qu'elle tentait d'oublier les atrocités qu'elle avait commises, ses cheveux en bataille lui tombèrent devant les yeux. Entendant des gémissements autour d'elle, elle vit que les Aes Sedai, dans le cercle, relâchaient leur tissage. Pour l'heure, elle détestait chacune de ses femmes.
« Par la lumière !»
s'écria Saerin.
« Que quelqu'un la guérisse !»
La vision de Ninevé se brouilla, et les sons devinrent lointains, comme si elle était sous l'eau. En un sens, il la berçait. Mais une vague glaciale la submergea. Ouvrant les yeux, elle comprit qu'il s'agissait du choc de la guérison. Agenouillée près d'elle, Rosil semblait inquiète. La douleur disparut, mais l'épuisement fut multiplié par 10. Quant à la douleur morale, lumière, celle-là demeurait. Dans sa tête, Ninevé entendait toujours les cris des 4 enfants.
« Eh bien, »
dit Saerin,
« on dirait qu'elle survivra. À présent, quelqu'un veut bien me dire ce qui s'est passé ?»
Elle lâcha la bonde à sa colère.
« J'ai assisté à bien des épreuves, dont une où l'accepté n'a pas survécu. Mais je n'ai jamais vu une femme vivre un tel calvaire. Il fallait la mettre à l'épreuve sans complaisance, »
dit Robindé.
« Sans complaisance ?»
répéta Saerin, livide. Haletant comme un soufflet de forge, Ninevé n'eut pas la force de lever les yeux sur les deux sœurs.
« Sans complaisance ?»
insista Saerin.
« Rubindé, ce n'était pas rigoureux, mais la pire vengeance dont j'ai été témoin. Chaque tissage, ou presque, était bien au-dessus de tout ce que j'ai vu infliger à une femme pendant la totalité de l'épreuve. Vous devriez avoir honte, tout autant que vous êtes. Regardez dans quel état elle est !»«
Aucune importance, »
lâcha Baracine.
« Puisqu'elle a raté l'épreuve. »«
Quoi ?»
croissa Ninevé. L'indignation lui donna la force de lever les yeux. Le terrain gréal ne brillait plus. Prévenante, Rosil était allée chercher une couverture et les vêtements de Ninevé. Les mains croisées dans le dos, Egwen se tenait à l'écart. Très sereine, elle écoutait les autres sœurs. Elle n'aurait pas le droit de vote. Les 7 représentantes décidant de l'issue de l'épreuve.
« Tu as échoué, ma fille. »
répéta Baracine, en posant sur Ninevé un regard glacial.
« Tu n'as pas fait montre de la dignité requise. »
L'air ennuyé d'être d'accord avec une sœur rouge, Lelaine acquiesça.
« Le but était d'éprouver ton aptitude à rester calme, comme il s'y est, Aes Sedai. Tu n'as pas été à la hauteur. »
Les 5 autres sœurs ne cachèrent pas leur malaise. En principe, on ne faisait pas de commentaires sur le résultat d'une épreuve. Ça, Ninevé le savait. Elle n'ignorait pas, non plus, qu'échouer était le plus souvent synonyme de mourir. Cela dit, la sentence des 2 sœurs ne l'étonnait pas vraiment. À bien y réfléchir, c'était logique. De fait, elle avait violé les règles de l'épreuve. En courant pour sauver Perrine et les autres, puis en canalisant avant d'en avoir le droit. Mais pour l'heure, elle n'avait aucun regret. Toutes ses émotions, en cet instant, étaient occultées par une terrible sensation de vide et de deuil.
La remarque de Baracine se tient.
Dit Céaïna regret.
À la fin, tu étais furieuse, et tu as couru pour atteindre plusieurs signes. Il y a aussi la question du tissage interdit. Très troublante, je l'avoue. Je ne dis pas que tu as échoué, mais il y a eu des irrégularités.
Ninevé essaya de se relever. Rosil voulut l'en empêcher, une main posée sur son épaule. Mais l'ancienne sage-dame s'accrocha à son bras et se hissa sur des jambes, plus que flageolantes. Prenant la couverture, elle la posa sur ses épaules et resserra les pans pour cacher sa poitrine.
« J'ai fait ce que je devais faire, »
dit-elle, la voix tremblant de fatigue.
« Laquelle, parmi vous, n'aurait pas couru en voyant des gens en danger ? Laquelle se serait abstenue de canaliser face à une attaque de créatures des ténèbres ?
J'ai agi comme une Aes Sedai doit le faire.
Cette épreuve,
objecta Barassine,
sert à prouver qu'une femme est capable de se consacrer à des intérêts supérieurs. Au nom du bien, elle doit pouvoir ignorer les contingences du moment.
J'ai réussi tous les tissages,
se défendit Nineveh.
Donc je n'ai pas perdu ma concentration. Oui, mon calme s'est lézardé, mais j'ai gardé la tête assez froide pour accomplir ma mission. Il n'est pas juste d'exiger le calme par simple passion du calme, ni d'interdire de courir à une personne qui voit ses proches en danger. Ça, c'est même carrément idiot. Mon objectif, lors de cette épreuve, était de montrer que je mérite d'être une Aes Sedai. Mais la vie de mes amis est plus importante que ce titre. Si pour sauver quelqu'un je devais le perdre, sans qu'il y ait d'autres conséquences négatives, je n'hésiterai pas une seconde. Jamais. Sacrifier des gens ne sert pas à un bien supérieur. C'est de l'égoïsme, rien de plus.
Barassine écarquilla les yeux de fureur. Non sans peine, Nineveh gagna un coin de la salle où elle put s'asseoir sur un banc et se reposer un peu. Alors que les sœurs formaient un cercle pour converser entre elles, Egwen, toujours sereine, vint s'installer à côté de l'ancienne sage-dame. Même si elle avait pu assister à l'épreuve et créer certaines des situations vécues par Nineveh, la décision finale appartenait aux sept représentantes.
« Tu les as énervées, »
dit la chère d'Amirline.
« Et perturbées. Non, j'ai dit la vérité. Peut-être, mais je ne parlais pas de ta tirade. Pendant l'épreuve, tu as bafoué les ordres que tu venais de recevoir. Bafoué ? Et comment aurais-je pu, puisque je ne me souvenais pas de les avoir reçus ? En fait, je me rappelais ce que j'étais censé faire, mais pas pourquoi je devais le faire. »
Nineveh fit la grimace.
« C'est pour ça que j'ai violé les ordres, parce qu'ils me semblaient arbitraires. Impossible de savoir pourquoi il m'était interdit de courir. Donc, face à des gens en danger de mort, marcher lentement paraissait idiot. Les règles doivent rester les règles, même quand on ne s'en souvient pas. Et tu n'aurais pas dû être capable de canaliser avant d'avoir atteint une étoile. C'est le principe même de l'épreuve. Alors, comment ? Tu as passé trop de temps en Tel Aharnariod. L'épreuve, eh bien, elle crée des univers très proches de ceux du monde des rêves. Ce que nous imaginions devenait ton environnement. »
Egwene secoua la tête.
« Je leur avais dit que c'était risqué. Ton expérience du monde des rêves t'a permis d'échapper aux règles de l'épreuve. »
L'estomac retourné, Nineveh ne répondit pas. Si elle échouait, qu'allait-il arriver ? Serait-elle expulsée de la Tour Blanche, après être passée si près de l'intégrer ?
« Cependant, je pense que tes infractions pourraient t'aider, »
ajouta Egwen.
« Pardon ? Tu es bien trop aguerri pour passer cette épreuve. En un sens, ça démontre que tu méritais le châle quand je te l'ai accordé. Les tissages, tu les as tous réalisés avec la vitesse et la compétence d'une experte. J'ai beaucoup apprécié ta façon d'utiliser les flux inutiles pour attaquer les créatures menaçantes. Le combat à Champ des Mondes, c'était ton œuvre, pas vrai ? Les autres ne connaissent pas assez de rivières pour créer cet environnement. » Parfois, on peut générer des visions et des situations en ponctionnant l'esprit de la femme qui subit l'épreuve. Utiliser ce terrain gréal est une expérience unique. Pour être franche, je ne suis pas certaine de tout comprendre. Mais Champ des Mondes, c'était toi ?
Oui,
reconnut Egwen.
Et la dernière situation, avec l'âne ?
Egwen acquiesça.
Désolé, si je ne m'en étais pas chargé, personne n'aurait. Merci de l'avoir fait.
Coupa Nineveh.
Ça m'a appris quelque chose. Vraiment ?
Nineveh acquiesça, s'adossa au mur, serra fermement sa couverture et ferma les yeux.
Oui. Si je dois un jour choisir entre devenir une Aes Sedai et être avec l'âne, j'opterai pour l'âne. Le titre qu'on me donne ne change rien à ce que je suis. L'âne, en revanche, il est beaucoup plus précieux qu'un titre honorifique. Sans celui d'Aes Sedai, je serai toujours moi-même et je pourrai encore canaliser le pouvoir. Sans l'âne, je ne saurais plus qui je suis ni ce que je veux. Quand je l'ai épousé, le monde a changé. »
D'avoir compris et énoncé ces vérités libéra Nineveh d'un poids.
« Espérons que les autres ne s'en apercevront pas. Si elles découvrent que tu places quelqu'un avant la Tour Blanche, ça ne le disposera pas bien à ton égard. Parfois, »
souffla Nineveh,
« je me demande si nous ne mettons pas les intérêts de la Tour Blanche, une institution, avant ceux des gens que nous servons. La tour ne devient-elle pas une valeur en soi, au lieu d'être un moyen d'accomplir des missions supérieures ? La dévotion est essentielle, Nineveh. La Tour Blanche guide et protège le monde. Pourtant, combien de sœurs n'ont pas de famille ? Combien vivent sans amour et sans passion, à part les intérêts de la tour? Ainsi, alors que nous prétendons guider le monde, nous nous en coupons. Le risque, Egwene, c'est l'arrogance. Par principe, nous pensons avoir toujours raison, et ça nous rend incapables de comprendre les gens que nous sommes censés servir.
Egwene ne cacha pas son trouble.
Ne crie pas ces idées sur tous les toits, surtout aujourd'hui. Tu les as assez agacés comme ça. Cela dit, cette épreuve était brutale, et j'en suis navré. Je ne voulais pas qu'on me surprenne à te favoriser, mais j'aurais peut-être dû y mettre un terme. Tu ne t'es pas comporté comme prévu, et ça a incité tes juges à être terriblement sévères. Voyant que les enfants malades te bouleversaient, elles en ont mis à toutes les sauces, si j'ose dire. Plusieurs ont considéré chacun de tes succès comme un affront personnel. Du coup, l'épreuve a tourné au bras de fer, et elles t'ont martyrisé. J'ai survécu.
Souffla Nineveh, les yeux fermés.
Et j'ai beaucoup appris. Sur moi, et sur nous toutes.
Nineveh désirait être une Aes Sedai reconnue et acceptée. Elle y tenait absolument. Ou presque. Parce que, au bout du compte, si ces femmes la rejetaient, elle continuerait à faire ce qu'elle estimait juste. Les représentantes, suivies par Rosil, approchèrent de l'ancienne sage-dame et de la chère d'Amerline.
« Nous devons parler du tissage interdit, »
dit Saïrin, lugubre.
« C'est la seule arme capable de détruire les chaînes des ténèbres. Je n'avais pas le choix. »« Une telle décision ne t'appartient pas, »
dit Saïrin.
« En agissant ainsi, tu as déstabilisé le Terangréal. Tu aurais pu le détruire, provoquer ta propre mort et peut-être la nôtre. Nous voulons que tu jures de ne plus jamais recommencer. » « Pas question !»« Et si ça fait la différence entre obtenir le châle et le perdre à tout jamais ?»« Une telle promesse serait de la folie, »
insista Nineveh.
« Je peux être dans une situation où des gens seront tués si je n'ai pas recours à ce tissage. Souvenez-vous que je devrais me battre aux côtés de Rand lors de l'ultime bataille. Que se passera-t-il si, au mont Shayol-Ghul, nous découvrons que je dois utiliser les torrents de feu pour aider le dragon à vaincre le ténébreux? Voulez-vous que je choisisse entre un serment idiot et le sort du monde ?»« Tu crois que tu iras au mont Shayol-Ghul ? »
s'écria Rubindé, incrédule.
« J'irai, oui. Ce n'est pas discutable. Rand me l'a demandé. Mais j'y serais allé même sans ça. »
Les sœurs se regardèrent, perplexes.
« Si vous voulez me nommer, »
reprit Nineveh,
« au sujet des torrents de feu, vous devrez faire confiance à mon jugement. Si vous me croyez incapable de savoir quand utiliser ou non une arme dévastatrice, refusez-moi le châle. Attention à ne pas vous tromper, »
dit Egwene aux sept sœurs.
« Refuser le châle à la femme qui a contribué à la purification du Saïdine pourrait être un précédent dangereux. D'autant que cette femme a aussi vaincu Mogadienne et épousé le roi du Malkair. »
Saïrin regarda ses collègues. Trois hochèrent la tête. Yukiri, Sehain et, grande surprise, Romanda. Trois la secouèrent, Rubindé, Barassine et Lelaine. Ne restait plus que Saïrin, le vote décisif. La sœur marron se tourna vers Nineveh.
« Nineveh Almehara, je déclare que tu as réussi cette épreuve. De justesse. »
Egwene eut un soupir de soulagement presque inaudible. Nineveh s'aperçut qu'elle retenait sa respiration.
« C'est accompli !»
lança Rosil en tapant dans ses mains.
« Que personne ne parle jamais de ce qui s'est passé ici. Il nous revient de partager en silence cette expérience avec la femme qui l'a vécue. Tout est accompli. »
Toutes les sœurs acquiescèrent, même celles qui avaient voté contre Nineveh. Personne ne saurait jamais qu'elle avait presque échoué. Si les représentantes l'avaient affrontée directement à propos des torrents de feu, plutôt que de déterminer une punition, c'est parce que la tradition imposait qu'on n'évoque plus jamais ce qui s'était passé dans le Terangréal. Rosil tapa de nouveau dans ses mains.
« Nineveh Almehara, tu passeras la prochaine nuit à prier et à méditer sur le fardeau qui pèsera sur tes épaules demain, lorsque tu auras reçu le châle. Tout est accompli. Merci, »
répondit Nineveh.
« Mais j'ai déjà mon châle et... »
Egwene la foudroyant du regard, la femme de l'âne se tut. Si serein qu'il fût, le regard d'Egwene pouvait glacer les sangs. Et Nineveh avait peut-être poussé le bouchon assez loin ce soir.
« Je serai heureuse de me plier aux traditions, »
reprit-elle, corrigeant le tir.
« À condition d'être autorisée à faire, avant, une chose très importante. Ensuite, je reviendrai et passerai la nuit en prière. »
Pour réaliser son projet, Nineveh aurait besoin d'un portail. Bon, Elle ne venait pas d'avouer aux autres qu'elle devrait quitter la tour. Mais elle ne les avait pas assurés du contraire non plus. Dans le camp obscur installé au pied d'un mur en cours de construction, Nineveh se faufilait entre les tentes. Chargée de nuages, le ciel nocturne était noir. Mais des feux brûlaient sur tout le périmètre du campement. Trop de feux, peut-être. Les occupants de ce camp étaient prudents à l'extrême. Par bonheur, les sentinelles l'avaient laissé entrer sans broncher. Utilisée au bon endroit, la bague au serpent faisait des merveilles. Un soldat lui avait même indiqué où trouver la femme qu'elle cherchait. À dire vrai, Nineveh avait été troublée de voir ses tentes à l'extérieur et non à l'intérieur du mur d'enceinte inachevé de la tour noire. Ses sœurs étaient là pour lier des achamanes, comme Rand l'avait proposé. Mais selon les gardes, les émissaires d'Egwen avaient été priés d'attendre. Parce que les achamanes avaient décrété, quoi que ça signifie, que d'autres devaient passer d'abord. Egwen en savait sans doute plus, puisqu'elle avait échangé des messages avec ses Aes Sedai, essentiellement pour les avertir qu'il pouvait y avoir des sœurs noires parmi elles. Celles qui étaient déjà démasquées avaient filé avant même l'arrivée du premier messager. Pour l'heure, Nineveh n'avait pas l'esprit à s'enquérir de plus de détails. Si fatiguée qu'elle redoutait de s'écrouler, elle marcha jusqu'à la tente idoine. Quelques champions passèrent à côté d'elle et la regardèrent avec leur calme habituel. La tente grise était des plus ordinaires. Une chiche lumière brillait à l'intérieur où des ombres s'agitaient.
« Mirel !»
dit Nineveh à voix haute.
« Je veux te parler. »
L'ancienne sage-dame s'étonna de la puissance de son timbre. À l'évidence, il lui restait plus de force qu'elle le pensait. Les ombres se figèrent, puis elles bougèrent de nouveau. Enfin, le rabat s'écarta pour dévoiler un visage perplexe. Mirel portait une chemise de nuit bleue presque transparente. Sur le sol de la tente, un de ses champions, un colosse à la barbe à la mode ilianienne, était assis en tailleur, torse nu.
« Ma fille ?»
s'étonna Mirel.
« Que fais-tu ici ?»
Beauté au teint olive, Mirel arborait une longue crinière noire et des formes voluptueuses. De justesse, Nineveh s'empêcha de saisir sa natte, trop courte pour qu'elle tire dessus désormais. Ça, il lui faudrait un moment pour s'y habituer.
« Tu as quelque chose qui m'appartient, »
dit Nineveh.
« Ma fille, c'est une question d'opinion, ça. J'ai été nommé aujourd'hui, officiellement, après avoir passé l'épreuve. Désormais, nous sommes des égales, ma fille. »
À un détail près, Nineveh était immensément plus puissante dans le pouvoir.
« Reviens demain, »
lâcha Mirel.
« Je suis occupée. »
Elle fit mine de rentrer sous la tente. Nineveh la retint par un bras.
« Je ne t'ai jamais remercié, »
dit-elle, ses mots lui arrachant la gorge.
« Eh bien, je viens pour le faire. L'âne vit encore grâce à toi, je l'ai enfin compris. Cela dit, ce n'est pas le moment de me marcher sur les pieds. Aujourd'hui, j'ai vu des amis se faire massacrer, et j'ai dû abandonner des enfants agonisants. En plus, j'ai été brûlé, fouetté et traumatisé. Je le jure au nom de la lumière. » Si tu ne me transmets pas le lien de l'âne sur le champ, j'entrerai sous cette tente pour t'expliquer ce que signifie le mot obéissance. Ne me pousse pas à bout. Demain, je prêterai les trois serments. Ce soir, ils ne m'entravent pas encore.
Mirel hésita, puis elle sortit de la tente.
Qu'il en soit ainsi.
Fermant les yeux, elle tissa des flux d'esprit et les transféra à l'ancienne sage-dame. Nineveh eut le sentiment qu'on venait de lancer un objet dans sa tête. Prise de vertige, elle poussa un petit cri. Mirel se détourna et fila sous sa tente. Nineveh se laissa glisser sur le sol. Dans son esprit, quelque chose venait d'éclore. Une merveilleuse conscience. L'âne, c'était lui, encore vivant.
Lumière bénie, mille fois merci.